Lecture pour vous. Des romans roses à écouter dans le noir. Une émission conçue et réalisée par Fernand Bailhac. Sur CFM, tous les mardis à 22h, avec rediffusion le dimanche à 15h. Amis auditeurs, lecteurs assidus ou occasionnels, retrouvez avec Lecture pour vous le plaisir de vous faire raconter une belle histoire, comme quand vous étiez petit avant de vous endormir. Aujourd'hui, un épisode de « Coup de double », un roman policier d'Edgar d'Orsay. Chapitre 1, un braquage bien ordinaire. On peut dire que vous, au moins, vous ne nous aurez pas posé de problème. Si tous les voyous étaient comme vous, on perdrait moins de temps, ironisa le policier devant son écran. Puis continua. Mais si les gens ordinaires se mettent à braquer, eux aussi, alors... Il va falloir rembaucher à la police, enfin. Je vais relire la déposition et vous pouvez m'interrompre si vous voulez pour ajouter quelque chose. C'est entendu, je vous écoute. Je commence. Commissariat principal de Nice, dimanche 18 mai 2002. Procès verbal de l'interrogatoire mené par le commissaire divisionnaire Béranger concernant l'agression commise ce jour à 9h30 à la station-service Les Mimosas, boulevard Arago à Nice. Suite à l'arrestation par les services de police de Nice ce dimanche matin à 9h55 de l'auteur présumé de l'attaque à main armée de la station-service Les Mimosas à Nice, il a été procédé, en dehors de la présence d'un avocat, à son audition et à son interrogatoire. Donc voici le procès-verbal. Nom, prénom, Bruand, Serge, Claude. Né le 20 février 1980, appartenait dans les Deux-Sèvres, nationalité française, demeurant 8 impasse des Peupliers à Simiez dans les Alpes-Maritimes. Profession, ingénieur des travaux publics, responsable adjoint de bureau d'études. Employeur, Var Promotion à Nice, Alpes-Maritimes. Voilà. Tous ces renseignements ont été confirmés par la présentation et la vérification des papiers du suspect. Casier judiciaire vierge. Aucun antécédent de délit ou de crime. Et les déclarations du suspect sont parfaitement corroborées par la déposition de Émile Saoud, gérant de la station-service Les Mimosas, qui a fait l'objet de l'attaque et qui a maîtrisé son agresseur avant même que les services de police ne l'appréhendent sur les lieux. À la question, reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés, à savoir tentative d'extorsion de fonds sous la menace d'une arme, de la caisse de la station-service Les Mimosas ce dimanche, 18 mai, à 9h30 environ? Vous répondez, je les reconnais parfaitement. À la question, êtes-vous l'auteur de cette tentative de braquage? Vous répondez, oui. À la question, avez-vous agi seul ou avez-vous des complices? Vous répondez, j'ai agi seul. À la question, saviez-vous qu'il s'agit d'un crime puni par l'article du code pénal? Vous répondez, je m'en doutais certainement, même si je ne connais pas l'article. À la question, étiez-vous pleinement conscient de votre acte? Vous répondez, j'en étais parfaitement conscient et j'étais en pleine possession de mes facultés. À la question, pourquoi avez-vous tenté de vous emparer par la force sous la menace d'une arme, de la recette de cette station-service? Vous répondez, j'avais un grand besoin d'argent et j'avais perdu une grosse somme la semaine dernière en jouant au blackjack au casino Le Roule de Nice. Il me fallait disposer de nouveaux moyens pour tenter d'appliquer la méthode que je venais de mettre au point. À la question, êtes-vous un habitué des casinos et des cercles de jeu? Vous répondez, certainement pas. C'est la troisième fois que j'entrais dans ce casino, mais je m'étais passionné quelques mois plus tôt pour ce jeu de hasard et je pensais avoir mis au point une technique infaillible. À la question, avez-vous prémédité votre tentative? Vous répondez, non, pas au sens d'une préparation, mais plutôt par impulsion, quand j'ai voulu disposer de nouveau d'argent pour jouer au casino. À la question, pensiez-vous trouver beaucoup d'argent dans la caisse de la station un dimanche matin? Vous répondez, je pensais qu'il y en avait assez et qu'on avait gardé la recette de la veille. À la question, depuis quand détenez-vous le pistolet factice, copie d'un Beretta 92F? Et à quel usage le destiniez-vous? Vous répondez, je l'avais acquis par hasard dans une brocante en province lors d'un séjour de vacances en Dordogne. Je ne me souviens plus où, et d'ailleurs je l'avais oublié dans un tiroir jusqu'à ce samedi soir. À la question, pensez-vous qu'il ferait illusion? Vous répondez, je ne connais rien aux armes, mais je pensais qu'avec beaucoup d'assurance, le gérant obéirait à mes ordres. À la question, quand le gérant vous a aspergé avec sa bombe lacrymogène, qu'avez-vous fait? Vous répondez, je pensais prendre immédiatement la fuite, mais je ne trouvais plus la sortie du bureau et je n'y voyais rien. Le gérant m'a immobilisé immédiatement et m'a menotté, ce qui lui a permis d'appeler la police. Et enfin, à la question, regrettez-vous votre geste? Vous répondez, oui, bien sûr, c'était idiot, et d'ailleurs, j'étais complètement paniqué en surveillant la station et en attendant qu'il n'y ait personne. J'étais surtout soulagé quand vos collègues m'ont amené. Voilà. Vous n'avez qu'à signer ici votre déposition en 3 exemplaires, à moins que vous ne préfériez la présence d'un avocat. Non, c'est inutile. On va vous conduire au dépôt en attendant d'être présenté au juge la semaine prochaine. Et j'ajoute que c'est vraiment lamentable qu'un type comme vous se laisse aller de pareilles aventures. Le commissaire appelle 2 policiers pour amener Serge au dépôt. Serge intervient. Et ma moto, est-ce qu'elle est restée là-bas? Non, non, on l'a ramenée à la fourrière. Et les clés de ma villa, vous les gardez? Oui, oui, on ira faire une perquisition bientôt. Et mon employeur, est-ce que je pourrais l'appeler depuis le dépôt? Certainement. Vous avez de la famille à avertir? Quelqu'un de proche, peut-être? Non, je n'ai personne. Bon, allez-y maintenant. C'est ainsi que Serge s'est retrouvé dans une cellule du dépôt, juste assez tôt pour le repas de midi. Dans l'après-midi, un Péruvien voleur à la tire, qui s'était fait piéger à l'aéroport, est venu le rejoindre dans sa cellule. Il ne parlait que quelques mots de français et ne paraissait pas s'inquiéter outre mesure de la situation. Serge a eu beaucoup de mal à s'endormir sur sa couchette, tellement dure, à écouter les claquements secs des serrures, des portes, et à repérer, dans le couloir, la ronde des surveillants.
Nous les paumés, nous ne sommes pas aimés. Des bons bourgeois qui nagent dans la joie. Il faut avoir, pour être à leur goût, un beau faux col et un chapeau mou. Ça ne fait pas chic une casquette, ça donne le genre marionnette. Et c'est pourquoi, quand un bourgeois nous voit, il dit en nous montrant du doigt. C'est un mauvais garçon, il a des façons pas très catholiques. On a peur de lui quand on le rencontre la nuit. C'est un méchant petit gars qui fait du dégât sitôt qu'il s'explique. Ça joue du poing, de la tête et du chausson, un mauvais garçon. Toutes les belles dames, pleines de perles et de diames, en nous croisant des airs méprisants, oui, mais demain, peut-être ce soir, dans nos musettes, elles viendront nous voir. Elles guincheront comme des filles en s'enroulant dans nos quilles. Et nous lirons dans leurs yeux chavirés l'aveu qu'elles nous murmurer. C'est un mauvais garçon, il a des façons
pater et catholique. On a peur de lui quand on le rencontre la nuit. C'est un méchant petit gars qui fait du dégât sitôt qu'il s'explique. Mais y'a pas mieux pour donner le grand frisson qu'un mauvais garçon.
CFM, lecture pour vous, diffusée les mardis à 22h, avec rediffusion le dimanche à 15h. Chapitre 2, un casse exceptionnel. Le lundi 19 mai était un jour de repos pour le commissaire divisionnaire Béranger. Pourtant, un coup de téléphone rageur le sortit de son sommeil à 8h30. « Patron, excusez-moi de vous déranger, mais je crois qu'il faut que vous veniez tout de suite. On vient de découvrir un casse à la banque BMCI, boulevard de Riquet, en ville. Apparemment, c'est une grosse affaire, hein. Je préférerais que vous soyez avec nous pour le premier constat. Écoutez, lieutenant, je viens de passer tout un week-end astreinte et j'aimerais me reposer un peu, hein. Patron, j'insiste, parce que je crois que tout le monde va être réquisitionné sur cette affaire. La préfecture est déjà informée et ils sont en pétard. C'est au 22 boulevard de Riquet. Allez, bon, j'arrive. Que personne ne touche à rien et installez un périmètre de protection. Convoquez-moi sur place le responsable de la société de surveillance et le responsable de l'agence. Bloquez tout le personnel de la banque, hein, et écartez tous les journalistes. Hein. Il n'y a pas de personnel, car en principe, c'est le jour de fermeture de la banque. Bon, à tout de suite. Un quart d'heure après, la voiture du commissaire se garait discrètement dans une rue adjacente au boulevard, à proximité de la banque. Il en profita pour situer les lieux et surveiller de loin la scène. Et il observa les passants sur le boulevard de l'autre côté du trottoir. Il nota une grosse Mercedes noire qui quittait nerveusement son stationnement en faisant hurler les pneus. Il ne put relever l'immatriculation complète. Devant la porte de la banque, des policiers en civil et des agents de la police municipale se tenaient derrière la banderole interdisant l'approche de l'entrée. Il rejoignit le lieutenant Duberne, très nerveux, qui discutait dans le hall avec un petit homme rondouillard et chauve, qui lui fut présenté comme étant le directeur de l'agence. Le personnel de la police scientifique arriva sur ces entrefaites. Le commissaire entraîna le directeur de l'agence et le lieutenant dans un bureau pour faire le point à l'intérieur. En passant dans la salle des guichets et de l'accueil du public, il constata que plusieurs grilles de soufflage de l'air conditionné pendaient au plafond, à demi arrachées. Certaines étaient tombées au sol au milieu de quelques gravats. « Vous êtes qui, vous ?»« Monsieur Nicolas Sueur, le directeur de l'agence. »« Qui vous a prévenu ?»« Notre agence de sécurité, quand elle a constaté ce matin que la télésurveillance ne fonctionnait plus. Elle s'était arrêtée à 7h45. » Alors ils m'ont téléphoné chez moi à 8h10 et on s'est retrouvé sur place avec le responsable de la sécurité une demi-heure après. Nous avons constaté qu'il n'y avait pas d'effraction sur la porte d'entrée ni dans le sas de sécurité. Mais par contre, l'alarme anti-intrusion n'était plus fonctionnelle. Sinon, je n'ai constaté aucun désordre dans les bureaux ni dans le hall d'accueil, à part les grilles de ventilation de la climatisation qui avaient été arrachées du faux plafond. Et alors ? Et alors, je me suis précipité vers la salle des coffres, sous-sol, et je n'ai pas pu ouvrir la porte. Elle était bloquée de l'intérieur. J'ai compris, alors, que les coffres avaient dû être fracturés. Nous avons immédiatement téléphoné au commissariat. Et bien sûr, il n'y a qu'une salle d'accès à la salle des coffres. Oui, c'est ça, je vais vous montrer les plans de la banque. Dites donc, la porte blindée de la salle des coffres, elle était fermée normalement, d'après vous ? Est-ce que vous avez déjà constaté une effraction ? Absolument pas, il n'y a rien d'anormal en apparence. Combien de personnes sont habilitées à manœuvrer cette porte des coffres ? Ah, deux, seulement deux, le caissier en chef et moi. Lieutenant, demandez au service scientifique de relever les empreintes sur cette porte. Voilà, voilà les plans. Comme vous voyez, la salle des coffres se trouve au sous-sol, à peu près dans cette partie de la banque. Hein. On y accède par le petit escalier là-bas. Et cette salle juste derrière, en sous-sol, c'est quoi ? Là, c'est la salle technique, avec la chaufferie, le local des installations de climatisation, production d'eau chaude, et puis surtout le PC de surveillance des installations techniques, ainsi que l'armoire du central téléphonique. Vous me dites que le PC de télésurveillance qui est en liaison avec la société de sécurité, il est aussi dans ces locaux ? Effectivement, c'est de là que partent tous les signaux de vidéo et d'alarme en continu vers le siège de la société de sécurité. Vous ferez expliquer tout ça par M. Martineau, le responsable de cette société. Vous voulez que je l'appelle ? Elle est juste là à côté. Attendez, d'abord, comment rentre-t-on dans cette salle technique ? Il doit bien y avoir un portail, une rampe d'accès pour intervenir et pour faire rentrer le matériel. Effectivement, il y a un grand portail sécurisé avec code d'accès spécialement réservé à la société d'exploitation qui gère nos installations techniques. Et d'ailleurs, ça donne dans le passage au Celli qui est perpendiculaire au boulevard de Riquier. Hop, lieutenant, oui. Convoquez-moi le responsable de cette société d'exploitation avec le maximum de discrétion surtout. Qu'il vienne immédiatement. Hein. Nous, on descend à la salle des coffres. Mais venez, c'est par là, je vous accompagne. Les deux hommes descendirent par les trois escaliers. Au fond d'un couloir, à droite, se tenait un petit bureau, et en face, occupant tout le fond, la masse imposante de la porte blindée de la salle des coffres. L'agent de la police scientifique finissait de relever les empreintes digitales en divers points. On ne voit aucune trace d'effraction. Vous avez fini ? Oui. Monsieur Sueur, essayez d'ouvrir la porte, s'il vous plaît. Le directeur tapa un code de 8 lettres et chiffres sur le boîtier, puis introduisit la clé dans la serrure principale. Il manœuvra le volant d'acier, puis tira latéralement pour faire glisser l'impressionnant panneau. La porte ne bougeait pas. Pourtant, un message s'affichait sur le portail électronique. Porte déverrouillée, faites glisser le panneau. Dis donc, et derrière la porte, il y a encore une protection ? Oui, une grille, un acier qu'il faut déverrouiller à son tour pour accéder à la salle. Et d'ailleurs, son boîtier est placé entre la porte et la grille. Du haut de l'escalier, une voix est là, le commissaire. Patron, le responsable de la société d'exploitation est arrivé. Il a fait vite. Allez, on remonte. Pas la peine d'insister, la porte a dû être coincée de l'intérieur. Je me présente, commissaire Béranger. Vous êtes ? Je suis Philippe Privat, directeur de l'agence de Nice de la SGEM, Société Générale d'Exploitation Méridionale. C'est nous qui assurons la maintenance et l'entretien des installations techniques de la banque. Avez-vous le code et la clé d'accès de la salle technique de la banque ? Montrez-moi, je vous suis. Il faut sortir et aller dans le passage au Chelly derrière la banque. Monsieur Martineau, Monsieur Sueur, Duberne, et vous aussi les agents de la police scientifique, venez, on vous suit. Les six hommes sortirent de la banque, s'engagèrent dans le passage au Celli et arrivèrent devant un grand portail métallique blindé. L'étroite ruelle était encombrée de voitures en stationnement, mais des plots d'acier fichés dans le trottoir de part et d'autre du bateau défendaient l'accès à ce portail. Un panneau rappelait « Stationnement strictement interdit, enlèvement immédiat en cas d'infraction. » Prenez-moi rapidement les empreintes sur le portail, le boîtier de sécurité et la poignée de manœuvre. Le commissaire observa soigneusement la ruelle, les immeubles de part et d'autre, et évalua la distance entre le portail et le boulevard, qu'on apercevait au bout du passage, 200 mètres juste. « Allez-y, ouvrez !» ordonna-t-il au responsable d'entretien. Le directeur de la société de gestion et de maintenance tapota un code, puis introduisit une clé de sécurité dans le brier du portail. Il ressortit la clé et un vérin bascula le portail à l'arrière en l'effaçant vers le plafond et en découvrant une rampe qui descendait doucement jusqu'au sous-sol. L'inspecteur ordonna de refermer le portail derrière eux et d'éclairer la salle. Le hall était immense et pouvait accueillir au moins 2 fourgons à la fois. C'est sous contrôle anti-intrusion encore ? Non, je viens de neutraliser la minuterie. Mais en fait, elle ne marchait plus, dit Monsieur Privat. Dans le fond, à gauche, il y avait la batterie des centrales de climatisation contre un mur. L'une d'elles avait subi de gros dégâts, et les coquilles d'aluminium et d'isolation de gaines gisaient au sol. Au-dessus de la centrale, juste sous le plafond, une conduite d'air d'un mètre de diamètre environ avait été démontée et laissée voir son trou béant. Ne touchez à rien. Recherchez les empreintes sur toutes les surfaces métalliques. Je suppose que ça communique avec la salle des coffres. Montrez-moi le plan. Oui, elle est juste derrière, séparée par un mur de béton armé spécial de 60 cm d'épaisseur. Sauf qu'on peut y pénétrer par une simple bouche de diffusion d'air. C'était bien la peine d'avoir fait un blocos. Non, il y a des trappes guillotines de sécurité anti-intrusion au niveau de chaque bouche. Elles se ferment automatiquement en cas d'alarme. Oui. En attendant, lieutenant, appelez des hommes avec du matériel, des échelles, des projecteurs pour aller faire une exploration dans ce boyau. Dites donc, commissaire. Venez voir par ici. C'est quoi ce petit trou noir dans le mur? Effectivement, au pied de la paroi, on pouvait distinguer un petit tas de ciment et juste à son aplomb, à 1,50 m de hauteur, un trou de 1 cm de diamètre. Ça m'étonnerait que ce truc ait été oublié à la construction, dit le commissaire. J'ai l'impression que nous avons là une des clés de cette affaire. Les gars, prélevez un peu du ciment. Le lieutenant Duberne approcha le nez du trou et déclara « Ça sent l'explosif agricole. » Toute l'équipe se dirigea ensuite vers le PC de télésurveillance et M. Martineau leur expliqua le fonctionnement. Il composa le mot de passe et ouvrit le fichier mémoire d'enregistrement des caméras de surveillance. Après quelques minutes de manipulation sur le clavier de l'ordinateur, il quitta l'écran des yeux et s'exclama. « C'est pas possible. Ils ont piraté le logiciel de surveillance et ils nous ont envoyé, sur la ligne téléphonique spécialisée du siège, le contenu du fichier mémoire tampon des 24 heures précédant leur opération. Et pendant ce temps-là, ils ont coupé la communication en temps réel des vidéos de surveillance et des alarmes. » C'est clair. Je comprends. Nos écrans de contrôle n'ont donc vu que des enregistrements normaux et des signaux d'alarme négatifs qui avaient été déjà stockés. Et c'est pour ça qu'on n'a rien compris, tant que le fichier mémoire nous a débité les informations conformes. Vous comprenez bien. Le système garde en mémoire en permanence les enregistrements des caméras et tout l'historique des alarmes sur les dernières 24 heures. Mais la nuit, ou bien quand l'agence est fermée, il ne se passe rien. Alors au siège, vous comprenez, si dans la nuit du dimanche on visionne la nuit du samedi, on ne peut pas s'en apercevoir. Le commissaire s'énerva. « Mais ces informations devaient être horodatées, il me semble, reprit-il. » « Oui, mais l'horodatage est créé sur nos propres ordinateurs au siège de la société. Justement, les signaux qui partent d'ici, eux, ne sont pas horodatés. C'est pour éviter des manipulations par le personnel ici même. » Encore un bon point pour le concepteur de la télésurveillance. Le plus fort, c'est qu'il connaissait tous les codes d'accès et tout le fonctionnement de la centrale. Bon, ça va. Combien de personnes de votre société connaissent ces codes et pratiquent cette centrale, monsieur Martineau? Allez, vous allez m'en faire la liste, et vous, lieutenant Duberne, vous allez les convoquer pour cet après-midi. Un lourd silence s'établit entre eux. Vous, monsieur Privat, vous allez en faire autant avec les employés de votre société qui ont accès à ce local ou qui connaissent les codes d'accès de la salle technique. Allez, convocation dans la fin de la soirée au commissariat. Le commissaire et le lieutenant s'écartèrent un instant du groupe des directeurs pour faire le point. Alors, si le fichier mémoire stocke 24 heures d'enregistrement et que l'alarme de télésurveillance s'est déclenchée ce lundi à 7h45, ça veut dire que le casse a commencé à 7h45 dimanche et qu'ils ont eu toute la nuit pour travailler. De toute façon, il y a une fuite de renseignements, soit à la société de service, soit aux deux. Hein. Mais il faut vérifier aussi que le personnel de la banque, ou son directeur, ne connaissait pas les procédures informatiques et ne possédait pas de double de la clé du local technique. Donc Duberne appelait les services de la préfecture pour qu'elle commande à toutes les autorités de police portuaire et aéroportuaire de surveiller les déplacements des principaux figures du milieu niçois. Faites surveiller les gares, raccompagnez les trois directeurs dans les bureaux de la banque et qu'ils ne téléphonent pas tant qu'on n'aura pas mis ces lignes sur écoute, surtout. J'attends ici des hommes et du matériel pour explorer les conduites de climatisation. Effectivement, une équipe technique des services de police du département arriva peu après avec un important équipement. Les hommes se hissèrent à partir d'une échelle dans la gaine principale de soufflage et parvinrent, en se guidant avec un plan, jusqu'au piquage qui alimentait en air frais la salle des coffres. À trappe de sécurité, avait été débranché en position ouverte et la grille de soufflage avait été démontée, si bien qu'il put revoir, en bas, à travers le trou béant de 60 cm par 60 cm, à la lueur de la torche, un plateau de tôles et de poutrelles métalliques qu'ils identifièrent comme étant l'arrière des batteries des coffres-forts individuels. Une échelle de corde leur permit de descendre sur ce plancher d'acier. Il était percé régulièrement, comme par des obus, comme des rayons de miel éclatés et vidés de leur contenu. L'immense panneau des 36 coffres était resté solidaire, mais comme s'il avait été arraché du mur et qu'il était venu s'écraser en biais sur le mur opposé en faisant un angle environ de 30 degrés avec le sol. Du coup, il bloquait la porte et la grille d'accès à la salle. Sur le mur, désormais vide, subsistait, encore intacte, la structure de poutres métalliques solidement ancrée dans le béton. Les policiers découvrirent, à 1,50 m du sol, la sortie de l'orifice qu'ils avaient noté de l'autre côté du mur dans la salle technique. D'ailleurs, un petit cratère était creusé dans le sol au pied du mur, mais le mur n'avait pas souffert lui-même. On voyait encore, sur les poutrelles métalliques restées au mur, l'emplacement des boulons de fixation qui solidarisaient la structure métallique et le placard des coffres. Tous les boulons avaient été arrachés comme par une force de géant. Ce qui rendit particulièrement perplexes les policiers, ce fut l'analyse des 36 ouvertures effectuées dans le fond des coffres. Ils avaient été perforés sous les coups d'un burin gigantesque, mais pas découpé au chalumeau proprement, en rond, mais percé, traversé, comme l'aurait fait un coup de poing dans un cerceau tendu de papier. Comme une bille éclate une vitre. Les ouvertures, de 20 à 40 cm de diamètre, présentaient une périphérie irrégulière, dentelée, comme des éclats d'acier. En passant la main et l'avant-bras, ils purent attraper des triangles d'acier projetés au fond des coffres. Les coffres étaient tous vides, évidemment. Après les procédures de prise de photos, de prélèvement d'empreintes et de tous les indices nécessaires, de nouvelles équipes de policiers, aidées par une entreprise spécialisée, finit dans la nuit par relever, avec des gros vérins hydrauliques, la structure des 36 coffres et à la rétablir verticalement, puis à l'arrimer aux poutrelles du mur. Vers les 2h du matin, on finit enfin par manœuvrer la grille déformée et ouvrir la porte de la salle des coffres. Pendant toute la journée, le commissaire et son adjoint procédèrent à l'audition de tout le personnel de la banque, de la société de sécurité et de la société d'exploitation technique. Le directeur de la banque établit la liste des clients loueurs de coffres, le montant approximatif quand il le connaissait, des sommes et des biens entreposés. On parlait de 1 million d'euros au bas mot. Les services de police improvisèrent une conférence de presse et un communiqué laconique fut adressé à la rédaction de la presse locale qui titra à la une « Nice, capitale des casses de banque ». La banque resta fermée 2 jours pour réparer les dégâts apparents, mettre un peu d'ordre et former le personnel à répondre aux demandes de la clientèle. 2 policiers en civil furent introduits dans l'agence comme de nouveaux employés pour surveiller la clientèle et les réactions du personnel et de sa direction. Une complicité interne n'était pas à écarter. Le directeur de l'agence fut mis sur écoute, ainsi que la société de sécurité et la société de maintenance. Une équipe spécialisée de la répression du grand banditisme, ainsi que des spécialistes de la police scientifique, furent envoyés spécialement de Paris à Nice pour épauler le commissaire Béranger. Au vu de la qualité des exécutions du CAS, des moyens techniques mis en œuvre et de la connaissance dans des lieux que de la levée des procédures de protection, on était en face d'une bande puissante, bien renseignée, bien organisée. Enfin, après analyse spectrographique des aciers, des éclats et des brisures, l'équipe technique rendit son verdict. Chacun des coffres avait été localement porté à une température de moins 150 degrés environ, ce qui rendait les aciers particulièrement cassants et fragiles à des chocs modestes, vu que leur épaisseur ne dépassait pas les 10 mm. Mais il faut se rappeler qu'il s'agissait de fonds de coffres, en principe inaccessibles à des perceurs classiques. Encore avait-il fallu apporter dans la pièce des équipements d'une puissance de congélation considérable. Bon, seules des projections d'azote liquide localisées étaient capables de descendre l'acier à ces températures. Sitôt que les fonds étaient surgelés à moins 180, il suffisait de les frapper avec un burin assez puissant pour les faire éclater comme du verre. Des essais furent entrepris pour valider cette explication. La police enquêta auprès de tous les distributeurs de liquide cryogénique de la région. Et on finit par retrouver à Toulon la trace d'une location de véhicules équipés d'une citerne d'azote liquide et d'une pompe cryogénique avec les flexibles et les buses. Ces équipements sont destinés en principe à la congélation des sols ou des conduites importantes d'eau quand il s'agit de poser des vannes ou des dérivations sans couper l'alimentation générale du réseau. Cette recherche technique et l'enquête qui suivit prit 9 jours. Mais on tenait une piste sérieuse. Il y avait une jeune femme rousse, 1m80 environ, avec un accent d'Europe centrale ou anglais, qui avait téléphoné dans un premier temps pour retenir l'équipement pour le compte d'une société de travaux publics, en précisant qu'il s'agissait d'une opération urgente à réaliser pendant le week-end dans un lotissement partiellement habité. Un fax de confirmation, en tête de la Generali di Lavori di Modena, avait été adressé à l'agence. Or, cette société existait bien. Mais toutes les coordonnées d'identification de cette société portées sur le fax étaient complètement fausses. Le fax avait été émis depuis un cybercafé de Toulon. La fille était venue chercher le camion le vendredi soir 16 mai, juste un peu avant la fermeture, et avait laissé un chèque de caution sur la Banco Veneziano de 25 000 euros au nom de cette même société italienne de Modène. Le numéro du chèque n'avait même pas été relevé. Et la fille avait ramené le camion lundi matin à 9h. Elle avait payé en liquide la location et la consommation d'azote, soit 4 250 euros TTC, en grosse coupure, et repris son chèque sans problème. Et elle était repartie sur une moto qu'elle avait logée dans le fourgon. La secrétaire de l'agence Air Liquide se souvenait bien de cette fille en lunettes noires avec sa crinière rousse, son équipement de motard, et ses gants dont elle ne se défaisait jamais. Ça pouvait être n'importe qui, avec une perruque ou des lunettes, sans compter l'accent étranger contrefait. Il fallait analyser les bandes vidéo des stations de péage de l'autoroute, mais elle avait sûrement pris la route nationale. Comme par hasard, ni dans le véhicule, ni sur les appareils, on ne trouvera d'autres empreintes que celles du personnel de l'Air Liquide. Des pros. Personne n'avait relevé la plaque d'immatriculation de la moto, qui devait de toute façon être fausse. Ailleurs, le relevé kilométrique au compteur du camion confirmait un aller-retour Toulon-Nice. Et donc, la bande était bien organisée. Peut-être des gangsters du milieu italien ou albanais, car les indiques du milieu marseillais et niçois n'avaient rien détecté de ce casse. Le 28 mai, toute l'équipe en charge de l'enquête se retrouva autour du directeur de la police départementale pour faire le point. Le processus du casse avait été élucidé à peu près complètement. Voilà, il s'agissait d'une équipe de 5 hommes au minimum, dotée des plans, des codes d'accès et de la télésurveillance informatique. Cette équipe s'introduit avec le fourgon Air Liquide dans le local technique de la banque le dimanche 18 mai vers 7h35. Un spécialiste informaticien ou de vidéosurveillance neutralise la caméra de surveillance du local technique et le contrôleur volumétrique temporisé à 3 minutes pour permettre l'accès normal du personnel de maintenance. L'équipe accède au PC de télésurveillance, déverrouille les codes, ouvre le fichier mémoire des enregistrements vidéo des 24 heures précédentes et la branche sur la ligne de liaison téléphonique spécialisée avec la société de sécurité, en substitution de toutes les informations vidéo et les alarmes en cours qui, elles, sont neutralisées et bloquées. Ainsi, sauf un blanc de quelques secondes, pendant le basculement de source, il n'y a pas de discontinuité de l'information reçue au poste de contrôle de sécurité, en supposant qu'un agent est en permanence en train de visualiser. Aucune alarme ne se déclenche. Et d'ailleurs, l'expérience a été tentée et réussie 3 fois consécutives, sans aucun problème pour les spécialistes de la police. L'alarme générale ne se déclenchera au poste de contrôle de la société de sécurité que lorsque le fichier tampon sera complètement vidé au bout de 24 heures, faute de rafraîchissement d'informations. Le déroulement horaire est le suivant. Il est environ 7h45 et le reste de l'équipe sort du fourgon et commence à forer le trou de 12 mm dans la paroi bétonnée avec une mèche au diamant, jusqu'à traverser le mur et déboucher dans l'espace compris entre le réseau de poutres métalliques ancrées dans le mur et le fond du placard de coffre qui y est boulonné. Ce volume de 8 cm d'épaisseur sur toute la surface du fond des coffres est parfaitement étanche. Un explosif simple du type nitrate d'ammonium mélangé à du fioul est passé à travers le trou. La mise à feu de ce mélange par une mèche allumée dans le local technique produit dans ce volume une formidable pression, ce qui va repousser l'ensemble des coffres vers la paroi opposée de la salle des coffres en arrachant tout le boulonnage. La salle des coffres n'étant pas suffisamment vaste pour recevoir toute la hauteur des coffres, il s'effondre donc à 30 degrés, appuyé en partie sur la grille et la porte d'entrée, qui est ainsi condamnée. Dites patron, j'ai une objection. On aurait retrouvé des traces d'explosion qui se seraient propagées vers le local technique aussi, à travers l'orifice. Oui, c'est vrai, mais je crois que les gaines de ventilation constituaient pour l'onde de choc un exutoire singulièrement plus facile que ces petits trous dans le mur. Donc je reprends. Dès que l'explosion a eu lieu, en projetant les coffres-forts pratiquement au sol, le souffle de l'explosion se communique dans les gaines de climatisation et détruit, en passant, les bouches de climatisation qui se sont arrachées de leur cadre plafonnier. Il y a des dégâts importants aussi aux centrales de traitement d'air et aux conduites principales, comme on a pu le voir dans le local technique. Vraisemblablement, avec une échelle, plusieurs hommes s'introduisent dans la gaine principale et progressent jusqu'au piquage de soufflage dans la salle des coffres forts. Alors la trappe guillotine de sécurité est déverrouillée, et du coup, ils descendent avec une échelle de spéologie et font suivre le flexible d'azote liquide. D'après les plans du lieu, il leur suffit de 20 mètres à peu près. Un homme reste dans le local technique pour faire marcher la pompe cryogénique et surveiller le local. Donc, à mon avis, ils sont 3 dans la salle des coffres. Un qui projette l'azote liquide sur chaque fond d'acier, un autre qui burine et qui éclate l'acier, et enfin, juste derrière, un troisième qui vide les coffres percés. Peut-être un quatrième homme, resté dans la conduite, hisse les sacs et les repousse vers le local technique. Le cinquième homme récupère les sacs et les range dans le fourgon. Attendez, patron, il y a un problème. Car avec tout cet azote vaporisé dans la pièce, sachant que la ventilation ne fonctionne plus, il devrait s'asphyxier par manque d'oxygène. Oui, c'est juste. Mais à leur place, je me serais équipé d'appareils respiratoires avec des bouteilles d'air comprimé de plongée, par exemple. C'est ce qu'ils ont dû faire. Mais l'opération n'a pas dû durer plus de 3 heures en tout, d'après moi.
Nous sommes partis par une nuit plutôt nocturne. Nous quatre Dudule, le grand Victor et l'amnésique. Nous avions collé des semelles crêpes à nos coutures. Il y avait les outils, la passion, monseigneur, chalumeau, cidrique. J'étais rencardé sur un boulot plutôt pépère. 3 kilos de diane, de la perlouse et puis du jonc. C'est pas si souvent que l'on dégote une bonne affaire. Ce soir, entre tous, fallait pas faire les cornichons. Attention, garez-vous ce soir les attaques. Les bourgeois, les salauds, va bien falloir qu'ils raquent. On n'est pas sur le tas pour jouer le fupéide. On va prendre un gros coffre et lui verser le bide. On perce. Grand Victor prend la chignole, toi Dudule fais pas le marieux. Tu la boucles ou bien sans ça, on perce. La musique à la courante, on va le mettre en 40. Ma parole c'est bien détente, perverse. Si ces crétins continuent, je les renvoie dans la rue. Avec un coup de pied dans le coin, ça verse. Le chalumeau se met à rôtir, le coffre fort il va souffrir. On va le mettre sans mollir, on perce. Nous sommes sortis avec du fric plein nos chaussettes. Ce vieux coffre fort était bourré comme un baron. Il y avait de quoi s'offrir de la tortore et des fillettes. Mais au coin de la rue,
la Dudule qui s'écrie, les mecs on est marrons.
Les poulets grouillaient comme à Oudan un jour de foire. L'amnésique élu s'est mis à pleurer comme un veau. Il ne manquait plus à la basse-cour que les canards. Et voilà l'aurore qui arrive avec le Figaro. C'est fini, les poteaux ce soir on couche au niouf. Plus d'osier, plus de filles et surtout plus de bouffe. Les barreaux de la cache referment sur nous. Mais demain, pour ma part, je commence à faire un trou. On perce. J'ai démonté mon plumard pour y prendre une petite balle. Et du matin jusqu'au soir, on perce. Dans la cellule à côté, l'amnésique en train de gratter. Va bosser jusqu'à ce que ça traverse.
Le grand Victor, ce vieux feignant, reste sur son pieu tout le temps, à chanter le marché persan.
Sa personne, spécialiste du boulot, si on a un petit peu de peau, sûr qu'on sera sorti bientôt, on perce. Nous avons creusé pendant 2 ans, sauf le dimanche. Y'a rien de plus dur que cette saloperie de béton. Nous quatre Dudule, on peut pas dire qu'on soigne des manches. Mais j'aimerais mieux faire comme les marchands de bruyère, des trous dans du fronton. Et puis un beau jour, en livrant le dernier bout de ferraille, par le trou du mur, j'ai vu sous la luire le beau long. Vrai, ça fait plaisir, un résultat quand on travaille. C'est la récompense des gars honnêtes. Et ça, c'est bon. Attention, les poteaux, ce soir on met les voiles. Attachons bout à bout nos jolis draps de toile. C'est le moment de montrer qu'on est les rois du sport. On était bien soignés, mais sont les mieux dehors. On perce. Ça y est, nous voilà sauvés. Les diables sont récupérés. Et une barre vient claquer. On perce. On appelle les amis, car tout le jour d'aujourd'hui, il tombait une de ces pluies. Averse.
Et l'amnésique s'envole vers Niort, plus du Lang Corée et du Nord, et le grand Victor choisit le port
d'Anvers. comme il aime les fleurs des champs, il choisit un coin charmant, il se retire à Ispahan, en Perse, sur les roses.
CFM, lecture pour vous, diffusée les mardis à 22h, avec rediffusion le dimanche à 15h. Si les modalités techniques de ce cambriolage exceptionnel étaient relativement simples à reconstituer, la recherche des auteurs était autrement difficile. Le réseau des indiques n'avait encore décelé aucune trace de la préparation ni de l'exécution de ce casse, même si les spécialistes de la répression du grand banditisme étaient persuadés qu'on avait affaire à un gang du milieu italo-serbo-albanais ou bien à une équipe internationale constituée pour l'occasion. L'équipe, de toute façon, avait bénéficié de la complicité, soit de la société de maintenance et d'exploitation, soit de la société de sécurité, soit, évidemment, du personnel de l'agence bancaire. Et, à part la signalisation fantaisiste de la fille au fourgon, la police ne disposait d'aucun indice. Empreinte, signature, permettant de dresser une liste de suspects ou d'identifier une bande. Malgré la pression de l'opinion publique, de la presse et des autorités, l'enquête serait longue et coûteuse en personnel. Comme souvent dans ces affaires, la résolution de l'enquête proviendrait d'une faute des cambrioleurs, soit au stade de l'écoulement des bijoux, des valeurs et des fonds, soit à l'issue d'un règlement de compte au moment du partage. Interpol était déjà alerté, même à l'absence de suspects. Quant à l'estimation du vol, le directeur de l'agence n'arrivait pas à fournir des chiffres précis, car la plupart de ses clients lui cachaient la nature et le montant des sommes et des valeurs qui étaient conservées dans les coffres. La BMCI, banque de deuxième zone, n'avait pas bonne réputation chez les spécialistes de la police financière. On se doutait, surtout à Nice, qu'il s'agissait d'un sas d'évasion d'argent sale vers certains paradis fiscaux. L'attitude du responsable de l'agence, lors de la perquisition et des enquêtes des spécialistes financiers, le démontrerait amplement. Mais on s'occuperait de lui plus tard. En attendant, c'était un coût à 2 millions d'euros, peut-être plus. Le commissaire Béranger sera-t-il capturer rapidement la bande de professionnels responsables du casse de la banque? C'est ce que vous saurez en écoutant le prochain épisode de Coup double, le nouveau roman d'Edgar Dorsey, sur CFM, le mardi à 22h et le dimanche à 15h. Vous pouvez aussi réentendre cet épisode sur le site de cfmradio.fr à la rubrique « Lecture pour vous ». Les illustrations musicales étaient la chanson « Fait un mauvais garçon » interprétée par Mouloudji et Marcel Azola, texte de Jean Boyer et musique de Georges Van Paris. Et puis l'inénarrable tango des perceurs de coffres des célèbres frères Jacques, musique de Jimmy Walter. Johan était à la mise en onde et Fernand, tous les deux, nous vous disons au revoir pour la prochaine émission de Lecture pour vous sur CFM. Bye bye.